Des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous, c'est Clotilde Seille au micro de Canal M une nouvelle fois. C'est encore des livres plein les oreilles pour une autre semaine. C'est l'émission numéro 102, eh oui. Et je suis très heureuse aujourd'hui de recevoir quelqu'un, j'aime pas dire que j'essaie de mettre la main dessus depuis longtemps, mais c'est un peu ça quand même, et c'est Catherine Mavrikakis. Bonjour Catherine.
Bonjour Clotilde.
Donc vous avez entendu la voix de Catherine, elle est déjà en studio, également à l'émission des voix que vous aimez et que j'aime particulièrement. Particulièrement celle de Gérard Saint-Denis, juste dans quelques secondes, et celle de Serge Bradet.
Bonjour.
Cet homme, bonjour Serge, qui est très très féru d'histoire et qui adore en parler.
Ouais, oui.
Et qui va encore une fois d'ailleurs vous proposer un ou plusieurs livres à caractère historique.
Ouais,
merci
nous irons
beaucoup.
Nous parlerons des Tuileries, le château des Tuileries.
Rien que ça.
Rien que ça, mais qui n'existe plus maintenant. Mais
quand même, il reste un petit.
Oui, il reste deux pavillons.
Oui,
mais la partie principale du palais a été brûlée lors de la Commune.
Ah oui.
En 1871, oui, par les révolutionnaires.
Quand je dis qu'il a dans l'histoire, cet homme-là.
Oui.
Alors, mon ami Gérard Saint-Denis, comment ça va, Gérard?
Ça va très bien, madame. Ça va très, très bien parce que. Voyez-vous, dans 5 jours de l'émission, vous aurez 80. Imaginez, c'est incroyable.
80.
J'ai jamais pensé que venir au monde en 38, je pourrais après ça passer à votre émission quand j'aurai 80. C'est vraiment, je suis très, très content. Je vais vous parler des nouveautés, des affaires nouvelles chez Valentin Ahu.
Oui.
Il y a des choses fantastiques.
Alors,
vous en donner quelques-unes.
Rappelez-nous d'abord qu'est-ce que Valentin a eu, parce qu'il y a encore des gens qui ignorent ce que c'est, et ensuite vous nous parlez des livres, d'accord?
Okay. Valentin a eu, c'est une association pour les gens malvoyants, une des plus importantes en France, qu'une toute petite bibliothèque. On nous offre seulement que 30 000 volumes.
Oh.
C'est pas grand-chose, mais quand même, c'est mieux que rien.
Bon.
C'est mieux que rien. On a 30 000 volumes présentement. Donc, on peut s'abonner gratuitement par Internet en envoyant une copie de notre problème de cécité.
Mm-hmm.
Et 2 semaines après, on reçoit un numéro d'abonnement et on va chercher, on a le droit à 25 livres par 15 jours.
Oui, c'est...
Sur les 30 000.
Bon, même vous qui êtes un gros lecteur, hein, Gérard, de toute façon...
Non,
c'est ça.
J'ai eu de la misère à trouver les nouveautés du mois, de la quinzaine qu'ils m'ont envoyé, vous en trouvez 4 ou 5, je ne savais pas lesquelles prendre.
Oui, en effet, oui.
C'est quand on a l'hyper-choix, il faut faire attention.
Oui.
Je m'excuse, mais j'ai...
Mais je vous en prie, un petit rue.
Et je commence par un livre. Un auteur que les gens connaissent bien, c'est Daniel Steele.
Oui.
Ah oui, son dernier, quoi, qui est disponible dans nos collections, c'est Collections privées.
OK.
C'est une belle petite histoire. C'est l'histoire d'une dame qui est riche, Madame Marguerite Vallès, et qui laisse dans une banque certains documents et certaines choses qui inquiète d'autres personnes. Il y a toute une histoire, je peux pas vous raconter si je raconte le truc, c'est plus intéressant.
Oui, mais est-ce que c'est plutôt amoureux? Est-ce que c'est plutôt on est dans quel univers à peu près, Gérard?
Un univers que je dirais de mystère un peu.
OK, mystérieux.
Oui, de mystère, mais c'est vous connaissez Daniel Steele, c'est son style, hein, c'est très bien écrit. On écoute ça, on a du plaisir, on pas besoin de se forcer à rien.
C'est ça.
C'est très amusant.
Oui, on amène ça sur la plage et on est bien content.
C'est un volume qui... je vais vous le dire. C'est un volume qui prend 7h45.
7 heures de lecture, d'accord.
À peu près, oui, c'est ça. Le deuxième, c'est un de mes préférés au niveau des livres sur des livres...
Policiers, non?
Oui. Coben.
Oui, Harlan Coben, mais oui.
Vous savez qu'il y a...
L'incontournable.
Il est né en 62. Ça veut dire qu'il est tout jeune. Il a le temps d'en écrire beaucoup d'autres.
Ça veut dire qu'il est plus jeune que moi. Pff, ça m'énerve.
Je croyais pas ça, madame. J'aurais jamais cru ça.
Je vous remercie. Oh, Gérard, vous savez me parler.
Qu'est-ce que je vais vous suggérer sérieusement? ça va être sans défense. Et sans défense, c'est assez spécial parce que, vous savez, c'est ce genre de romans qui sont un petit peu intrigants, qu'on ne sait pas où il va aller, mais tout à coup, l'histoire se fait, si on veut, se fait à mesure qu'on le lit. Et c'est un bon roman, c'est un classique, il est très rapide, 8h37, et vous savez, c'est l'histoire un peu de quelqu'un qui paye une rançon, et que au bout de la ligne, il y a pas, la personne qui était enlevée n'est pas réapparue. Sauf que l'oncle de la personne qui a payé, 6 ans après, croit avoir vu la personne.
Voilà
le mystère. Et en passant, là, à nos lecteurs, je vous le dis tout de suite, le dernier que la prochaine fois que je vais vous parler, j'espère être capable de vous offrir par M. Cohen, là, du sang sur le Green, il paraît que c'est un excellent, excellent roman. Il est sorti.
Ne me dites pas que ça se passe sur un golf.
Il n'est pas encore disponible.
Non, bon, d'accord. Dites-moi, attendez, Gérard, oui. je vois sur les petites recherches que j'ai faites, c'est que tous ces livres-là, ou presque, sont lus par une Manon. Est-ce qu'on parle d'une voix de synthèse ou d'une vraie voix?
Non, pas une voix de synthèse. C'est Manon, je la connais bien, c'est une voix de synthèse. Elle est très gentille. On avait avant une autre qu'on appelait Lise, je crois, oui.
Ouais.
Et on l'a délaissé pour une plus jeune, c'est
bon.
Manon maintenant.
Et ça ne vous fatigue pas les oreilles, vous, d'entendre une voix de synthèse?
Savez-vous que tout à coup, je suis en train d'écouter un livre et je me demande si c'est en synthèse vocale.
Ah oui.
Et quand on arrive au chapitre 4 et qu'on dit chapitre V, là, je comprends que c'est la machine.
Ah oui, c'est comme... Non, mais
elle dit chapitre V.
Ça, c'est comme se retrouver avenue Georges V à Paris. On l'a déjà entendu, celle-ci.
Au Georges V.
On a encore un petit peu de temps. Vous en avez un autre?
Le prochain auteur, un de vos invités doit bien le connaître, c'est Jean-Christophe. Petit-fils, Jean-Christian,
oui, peut-être.
Petit-fils, oui. Et le dernier sorti qu'on a, nous autres, c'est les énigmes de l'histoire de France. C'est intéressant. C'est 25 énigmes qu'on nous présente. Et c'est des récits qui nous replacent dans l'histoire de France.
D'accord.
Avec tout ce qui se comporte, et j'entendais tout à l'heure votre invité qui va nous parler de choses merveilleuses.
Oui.
Moi, j'ai eu le plaisir, il y a quelques années, je suis allé justement pour Visez-Voix en France, et c'était mon 27e voyage à Paris, et j'ai visité ces coins-là, j'ai fouiné dans ces coins-là, et c'est tellement merveilleux, c'est tellement historique.
Ben oui.
Et quand on lit un livre, on a l'impression de revivre notre passage.
Ben oui, puis nous, pendant ce temps-là, on démolit la maison Red Pat.
Ah, c'est effrayant.
En tout cas, c'est fou, hein? Ouais.
Et vous savez qu'il y a eu le nouveau palais de justice en France.
Oui.
Et quand on visite, je l'ai visité une fois, c'est là que Marie-Antoinette a été jugée.
Ouais. Ah, oui.
Et notre autre ami que tous vos auditeurs connaissent bien aussi, qui était, comment ça s'appelait l'auteur, Augustin Flaubert.
Qui est un gars de mon coin, qui est un Normand.
Il était accusé avec Madame Bovary.
Absolument. Je suis allée au lycée Flaubert, moi, monsieur.
Ah oui,
Flaubert. Ben,
j'étais à l'Action catholique, madame, j'avais un laissez-passer signé par le cardinal Léger qui me donnait accès au livre à l'index. Pour votre information, je pourrais vous montrer, vous envoyer le libellé en 1963.
Oui.
Et je me souviens que je pouvais montrer mon... Je pouvais le lire, mais il ne fallait pas que je l'expose à des yeux trop jeunes, etc.
On vous a compris.
Ça disait que dans le doute, je devais me confier à un confesseur prudent. Oh là 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 là. Hey, c'est merveilleux, hein?
Mon cher Gérard.
Mais c'est pas 1863, c'est 1963.
Cher Gérard.
Salut vos éditeurs. J'ai oui. Une belle semaine de lecture.
Vous êtes gentil.
Et on va vous revenir avec des belles affaires. Je vais vous apporter aussi des livres, toujours chez Valentin, je vais vous en apporter, qui vont parler des rois de France. Je trouve ça intéressant.
Oh, ben justement, aujourd'hui, le livre dont va nous parler Serge, ce sont ceux qui ne sont pas devenus rois de France.
Oui. Ah.
On va justement évoquer cette descendance que les rois ont eue et dont on aurait pu penser qu'un jour, elle montasse sur le trône.
Montasse, oui.
Eh bien, elles ne sont point, voyez-vous.
C'est qu'à partir de Louis XVI, aucun héritier ne montait sur le trône.
Je n'ai pas été mêlé à ça, mais je me suis intéressé à ça parce que ça fait 30 ans que je fais de la généalogie. Et j'ai regardé beaucoup la généalogie des rois de France.
OK.
Et d'Angleterre particulièrement.
Gérard, c'est pour ça que vous êtes une mine d'or et qu'on adore vous écouter ici et qu'on se reparle très bientôt, mon petit Gérard.
Je salue vos invités, je salue votre public. Au plaisir et bonne lecture.
Merci et bon anniversaire.
Merci bien.
Salut. Avant d'introduire ma prochaine invitée, j'ai envie qu'on écoute quelques notes d'une chanson qui, en tout cas, que j'ai facilement repérée dans son livre. Elle va venir. Tu monteras.
Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Bardo peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi.
Et oui, Nougaro.
Oui.
Nougaro, le cinéma. Quand j'ai lu ça dans votre livre et que j'ai vu que c'est bien après que vous aviez su que c'était une chanson de Nougaro, j'ai dit « Ah, mais moi, je l'ai tout de suite. Il faut que je la mette cet après-midi pour accueillir Catherine Mavrikakis. »
Merci, Clotilde, de me recevoir.
Écoutez, c'est un pur plaisir teinté d'émotion. Les fidèles auditeurs de cette émission savent que j'ai pour habitude de dire les choses telles qu'elles sont. Et là, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai l'œil sec, mais depuis pas si longtemps que ça. Alors, je ne voudrais pas faire peur à ceux qui n'aiment pas les livres tristes, parce qu'il ne s'agit pas de ça, je veux dire, intrinsèquement. Mais vous savez, il y a parfois des livres qu'on referme, et même s'ils sont bons d'ailleurs, mais bon, on en lit d'autres et puis on les oublie. Et il y a de ceux qui vont laisser une trace. Eh bien, celui-ci, qui s'appelle « Ce qui restera », pour ma part, va laisser une trace. Alors, c'est pour ça que je vous dis que c'est avec beaucoup d'émotion, Catherine Mavrikakis, pardon, que je vous reçois. Tiens, je vais commencer par un extrait, si vous me le permettez.
Bien
Nous
sûr.
Sommes en page 102, où vous dites « En effet, quelle mémoire j'ai ?» Vous dites « En moi se bouscule beaucoup de temps, de moments, d'heures, de chiffres, d'êtres, d'animaux, de parfums, de lieux, d'objets, de citations, de livres, de mots, de couleurs, de fleurs, de violettes, de poupées, de chaussures et de phrases. Il faut faire attention quand on me parle, je suis capable de retenir longtemps ce que l'on me dit. Mais c'est grâce à cette mémoire-là que nous avons ce livre entre les mains, Catherine Mavrikakis.
Oui, mais ça a été une mémoire qui m'a toujours été un peu difficile. J'avais l'impression d'être excessivement poreuse et de porter en moi des choses qui ne m'appartenaient pas toujours, comme la vie de mes parents. Bien sûr, la vie de nos parents nous appartient, mais jusqu'à un certain point.
Exactement.
Et vous parliez tout à l'heure, vous avez dit que vous veniez de Normandie, ma mère est de Normandie.
Oui.
En fait, et j'avais l'impression de porter aussi toute la Normandie et toute la guerre, en fait,
oui.
Puisque ma mère a vécu la Seconde Guerre mondiale, elle avait 20 ans, 45, et donc je suis contente, il y a eu plein de bonnes raisons d'être contente d'avoir une bonne mémoire, mais je trouve que la mémoire peut être un peu lourde parfois.
Écoutez, c'était ma prochaine question. Est-ce que cette mémoire-là n'est pas finalement très encombrante?
Je trouve tout à fait. J'ai l'impression que j'ai eu du mal à aller vers l'avenir. Et je commence à aller vers l'avenir alors que j'ai 57 ans maintenant. Mais j'ai l'impression que finalement, je me délivre d'un certain passé en voyant que, en faisant la part des choses, à me dire, en me disant qu'il y a des choses qui ne me regardent plus, qui sont bon, qui appartiennent à des gens qui ont vécu avant moi. Alors contrairement, moi j'ai beaucoup de mal avec l'histoire parce que j'ai du mal avec les histoires, avec le passé justement. J'aime beaucoup l'histoire, mais en même temps, je trouve que le passé peut nous empêcher de vivre le futur. Mais
et l'avenir, il y a un constat terrible en page 91 quand vous êtes avec cette amie dont on va reparler au cours de cette entrevue. Thérésia, qui vous a souvent répété « Que veux-tu qu'on fasse ?» en parlant du destin des autres. « Je vis sous l'égide de mon prénom. On ne peut rien faire contre l'avenir de chacun. » Comment ai-je pu me consoler d'une telle parole?
Oui, j'avais cette amie, bon, à 17 ans, ou à 16 ans, je rencontre cette jeune femme qui avait le même âge que moi et qui m'a permis de sortir de ma famille parce qu'elle, elle avait accès à la culture. Oui, elle avait accès à la culture, à la vie. C'est ses parents qui aimaient Nougaro, pas moi, je ne connaissais pas. Elle me montre le monde. Mais elle avait quand même un secret, elle avait une douleur.
Et une cette déchirure.
Cette déchirure, c'était son nom. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait rien contre son destin, qui allait être un destin, en fait, d'alcoolique. Parce que dans sa famille, tout le monde était alcoolique. Et à 16 ans, elle était déjà totalement malade, disons-le comme ça. Et elle savait qu'elle en mourrait. Et elle en est morte.
Et elle en est morte.
Elle en est morte seulement l'an dernier. Ce qui est magnifique, c'est qu'elle a vécu 40 ans, ou il y a un an et demi en fait qu'elle est morte, mais elle a vécu 40 ans comme ça.
Ça fait mal. Moi, je vous avouerai que ça, c'est l'une... On va revenir à votre histoire, bien sûr, mais cette histoire-là, moi, justement, lorsque vous racontez sa mort, j'étais, mais dans un état, parce que quand vous parlez de la culture qu'elle vous a transmise... bon, cette fille qui a l'air quasiment gothique, en tout cas, tu sais, bon, qui se maquille beaucoup, etc., qui s'habille de façon extravagante, qui se balade toujours avec sa contrebasse. C'est une folle de musique classique. Alors, Mahler, Beethoven, tout ça. Et c'est une fanatique de Proust, Zola.
Zola.
D'ailleurs, vous dites, elle finit par mourir comme le Gervaise, personnage de Gervaise.
Tout à fait. Et elle le savait, à 17 ans, elle me le dit, tu sais, je finirai comme ça. Oui. Et c'est ça qui est fascinant. Et moi, j'ai eu l'impression d'assister à un destin qui se déroulait avec moi, à côté de moi, mais que je ne pouvais rien faire. Et là, ça m'a fait beaucoup de mal. Enfin, j'ai eu l'impression de... Il y a comme ça des gens qui savent d'avance ce qu'ils deviendront et qui acceptent ça parce qu'ils ont l'impression qu'il n'y a pas de possibilité de faire autre chose.
Ce qui me ramène à votre vie, Catherine, parce que autour de vous, on avait décidé que vous ne vivriez pas au-delà de 36 ans. Et d'ailleurs, vous le dites même avant même que vous soyez conçu, finalement.
Oui, tout à fait. C'est mon père voulait une fille qui s'appelle Catherine, comme sa mère, qui était morte à 36 ans. Et il me disait, tu vas mourir comme ta grand-mère quand tu auras 36 ans. Mais alors contrairement à Thérésias, j'ai toujours eu l'impression qu'il fallait se battre contre le destin. Que le destin, c'était une mauvaise fée qui se penche sur notre berceau, mais qu'il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit, et de faire en sorte que les choses puissent changer. Mais je ne sais pas d'où ça me vient. Je ne sais pas d'où me vient cette révolte contre le destin.
Mais heureusement que vous êtes révoltée à un moment donné, entre autres, contre votre père.
Contre mon père,
qui est non seulement suicidaire, mais qui, lorsqu'il décide de passer à l'acte, souvent, ce n'est pas tout seul. Il y a la famille avec lui.
Oui, tout à fait. Mon père... mon père aurait pu nous tuer tous plusieurs fois, mais on a eu de la chance, tout simplement.
Mais un jour, vous faites un constat, encore un autre. Est-ce que je vais retrouver où c'est? Mais c'est tellement lorsque vous avez en cette journée de l'action de grâce, vous êtes avec votre ami et votre famille. On essaie de vous le cacher, mais on comprend tous très vite qu'il ne s'agit pas d'un accident. Il jette la voiture avec sa femme et le frère. Sur un lampadaire, ils s'en sortent tous quasiment indemnes. Bon, la maman a des fractures, mais enfin, on s'entend que par rapport à la gravité. Et là, vous dites, en cette journée de l'action de grâce, je ne suis plus seulement la victime, la morte de mon père, parce que même s'il n'était pas dans la voiture, c'est comme ça que vous vous considérez. J'apprends à devenir un assassin et mon père a compris cela. Oh! Oh! À chaque fois que j'évoque quelque chose, j'ai envie de vous poser ensuite la question, c'est comment on passe au travers de ça?
Ben, écoutez, c'est une force quand même qui était en moi. Je pense qu'à un moment donné, mon père a su qu'il ne pourrait pas nous faire juste simplement du mal, que j'allais réagir et que je pouvais, c'est affreux ce que je vais dire, mais je pouvais le tuer. Et ça, il l'a su et je l'aurais fait. Et j'ai eu de la chance de ne pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai eu de la chance parce qu'il ne m'en a pas donné l'occasion. Il aurait pu être assez fou pour m'en donner l'occasion, mais il ne m'en a pas donné l'occasion.
Mais vous êtes certaine que vous auriez pu passer à l'acte?
Certaine. Certaine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est trop. Vous voyez ce que je veux dire? C'est trop. Je le dis, c'est affreux ce que je suis en train de vous dire. Mais j'en suis certaine. Alors, c'est peut-être parce qu'on construit après coup. Mais je pense j'en étais si sûre qu'il l'a su. Vous voyez ce que je veux dire? Je lui ai dit, ça suffit maintenant.
Oui, c'est terrible hein, ce que vous lui dites. Hein. Vous lui dites, mais attention, la prochaine fois, si tu me rates, je te dénonce. Tu feras encore de la prison et pas pour fraude ou escroquerie. Je te le promets, tu ne t'en tireras pas facilement, ou alors c'est moi qui vais te tuer, j'y pense tous les jours, je t'éventrerai dans mon sommeil et je n'éprouverai aucun remords. À partir de ce jour-là, mon père ne nous attaquera plus, ni mon frère, ni moi. Mmh. Mais vous comprenez pourquoi aussi ce livre nous rentre dedans? Parce qu'on a tous dans nos familles, on n'a pas tous ce genre de souffrance, mais on en a tous.
Bien sûr.
Il y en a d'autres, ça va être dans le non-dit, il y en a d'autres, et donc, c'est pour ça que ce livre, « Ce qui restera », quel beau titre, nous ramène, moi je pense, c'est pour ça que ça m'a autant bouleversée. C'est que ça m'a ramené, bon déjà en plus, on a un point commun qui est la Normandie. culturellement parlant, bien on a sûr. Aussi énormément de choses. Parfois, je me disais, oh mon Dieu, c'est moi. Mais un autre, vous Serge, si vous le lisez, vous allez vous dire, oh mon Dieu, c'est moi. Je suis absolument convaincue de tout ça. Catherine, j'ai lu quelque part, Catherine Mavrikakis, que votre maman ne vous a jamais lu.
Non, elle ne me lit pas. Non, elle n'aime pas la lecture, ma mère. C'est une douleur pour moi. Mais ce n'est pas une douleur parce qu'elle ne me lit pas mes livres. C'est une douleur d'avoir une mère qui ne lit pas. Parce que j'ai eu l'impression que ma mère ne m'a jamais transmis quelque chose du désir de lecture. Ouais. Je l'ai eu grâce à des professeurs. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des très belles rencontres dans ma vie. Oui. Je crois que il y a des gens qui ont été vraiment charmants avec moi. Mais ce désir de lecture, ce désir de s'évader du monde et puis de le comprendre par la lecture, ça, ma mère ne l'avait pas. Alors, est-ce que je suis triste qu'elle ne me lise pas? Oui et non. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est enfant.
Mais il y a un moment donné où vous dites, pardon de vous interrompre, mais que vous avez pris ces parents-là, cette vie-là, littéralement, je vous cite, dans la gueule. Il n'y a pas des fois où vous avez envie de leur envoyer ce livre. Moi, je ne sais pas, mais j'avais ça. C'est pour ça qu'il me semble que je serais déçue quasiment que ma mère ne me lise pas, quoi.
Écoutez, ma mère a vu le livre parce qu'elle voit les livres et elle était contente parce que c'est une photo d'elle sur la couverture avec mon frère dans les bras.
Elle est magnifique, d'ailleurs.
Oui, oui. Bon, donc, elle était contente de ça, mais c'est tout. Elle était... Je pense que je ne m'adresse plus à ma mère ou à mes parents. Ouais. Je pense que c'est très important pour moi que vous ayez lu ce livre, que d'autres liront, que c'est à eux que j'ai envie d'adresser ma révolte ou ma colère.
Oui, je comprends.
Ce n'est plus contre mes parents. Je pense que ça, c'est liquidé pour moi.
Est-ce que c'est liquidé? Est-ce que c'est pardonné?
Ah... Pardonner, je crois pas, mais vous savez, maintenant, le temps passe et puis il y a l'avenir. C'est ce que je me dis, il y a l'avenir. Oui. Il faut penser à l'avenir, à ce qui vient.
D'accord. Je voudrais aussi, Catherine Mavrikakis, parce que je suis très heureuse, il y a vraiment beaucoup de livres de vous qui ont été lus, et je voudrais en citer quelques-uns. La balade d'Ali Baba.
Oui, qui est sur mon père, tout à fait, qui raconte...
Ça, c'est votre papa.
Oui, ça parle de mon père longtemps et d'une réconciliation possible avec mon père.
Est-ce que la vie, votre vie a toujours été à la base de la plupart de vos romans?
Non, pas tous.
Pas tous.
Pas tous, pas tous. Mais justement, la balade d'Ali Baba, c'est quelque chose qui s'est glissé. C'est un projet qui n'était pas du tout autobiographique que j'étais en train de faire. C'était Oscar de Profundis. Et puis mon père est mort et j'ai dû faire... ce livre, La balade d'Ali Baba, je me suis sentie obligée de le faire. Qu'il fallait rendre hommage à mon père avec tout ce qu'il avait de méchant et de rocambolesque.
Et Oscar des Profondis est également sorti, ça oui. C'est parce que c'est, il est tout récent aussi.
Oui.
Alors ça, en quelques mots.
C'est un livre qui raconte ce qui va se passer en 2061 à Montréal, quand tout le centre-ville sera habité seulement par les sans-abri et que tous les gens seront allés habiter à l'extérieur de la ville. Et qu'on aura plus ou moins pensé que le centre-ville n'est plus un lieu digne d'être habité par des gens « bien », entre guillemets.
J'ai un ami qui était en train de lire ce livre-là et en même temps, il lisait du Oscar Wilde.
Oui,
oui,
parce que c'est qu'est-ce qui peut nous sauver ? C'est peut-être...
C'est lui derrière. C'est Maurice qui était au bouton.
Ben, bon. Qu'est-ce qui peut nous sauver, justement, c'est la littérature, c'est écouter des belles choses, c'est aussi comprendre par les livres ce que le monde peut devenir et empêcher qu'il devienne aussi sinistre qu'il se prépare à être.
Voyez-vous, c'est exactement ce que j'avais écrit dans mon introduction par rapport à votre livre, qu'il faut que la littérature et qu'il faut que la lecture, merde, il faut que ça laisse des traces, autre chose que, oh mon Dieu, c'est que c'était bien écrit, mon Dieu. Et à la limite, même des blessures, c'est une phrase que je cite souvent, mais qui était de Bernard Dimet, qui était un poète d'ailleurs, qui est mort complètement alcoolique et dans l'oubli le plus total. C'est lui qui a écrit Syracuse, vous savez, j'aimerais tant voir Syracuse, chanté par Henri Salvador. C'est lui qui a écrit le texte de ça. Et il disait, il faut aimer le mal que nous font les chansons.
C'est vrai, que c'est juste, que c'est beau.
Et moi, j'ai l'habitude aussi de parler des livres de la même façon en disant, il faut aimer le mal que nous font les livres. Parce que votre livre, il m'a fait mal, Catherine.
Je suis désolée.
Non, mais c'est ça, mais pas dans le mauvais sens du terme, évidemment. Dans le bon sens du terme, dans le sens que oui, j'ai aimé cette douleur-là. Je vous répète le titre, Ce qui restera. Et comme il nous reste une minute, on cite encore Le ciel de Bay City, évidemment. Alors ça a été un énorme succès. Vous avez remporté des prix.
Oui.
Ça vous a...
Oui, c'est un livre, ça racontait l'immigration de ma famille dans l'Amérique du Nord. Oui. Et vous voyez, bon là, c'est encore un livre assez autobiographique, mais j'avais quand même pu romancer pas mal de choses.
Et Smokey Nelson, alors, les derniers jours de Smokey Nelson.
Oui, c'est l'histoire d'un condamné à mort. C'est l'histoire d'un condamné à mort aux États-Unis. Et il va passer à la chaise électrique. Enfin, et voilà.
Bon. Et puis, ce que dit l'écorce, dont on a déjà d'ailleurs parlé à cette émission-là. Catherine Navrikakis, merci pour ce livre.
C'est moi qui vous remercie, Clotilde. Quelle bonne écoute. Merci à
vous. Je vous en prie. Et puis, on a bien hâte encore d'en lire d'autres et d'autres et d'autres. Puis un jour, vous pourriez peut-être venir en lire un, tiens.
Avec plaisir, ça me plairait. Mais je ne suis pas une bonne lectrice, mais je le ferai avec grande joie.
Je ne vous crois pas. Et restez des nôtres dans quelques minutes après la pause publicitaire. Je vais vous lire un extrait d'à peu près 4 ou 5 minutes du livre de Catherine Mavrikakis, Ce qui restera. Merci, Catherine. Des livres plein les oreilles, la suite. Voilà, Catherine Mavrikakis a quitté le studio et on va lui souhaiter plein de bonnes choses pour la suite, mais elle a dû nous quitter rapidement. Sa maman est très malade en ce moment, la maman dont nous parlions d'ailleurs. Et donc, c'est une grande inquiétude pour elle, même si, comme elle le dit elle-même, et donc je ne dévoile rien, elle en a parlé souvent dans les journaux, ça n'a pas été très facile. Ça n'enlève rien. Et comme vous savez, toutes les semaines, j'ai l'habitude, de lire un extrait du livre dont nous avons le plus abondamment parlé aujourd'hui avec mon invité qui était donc Catherine Mavrikakis, mon invité entre autres, et ce livre, Ce qui restera. On lui demande dans ce livre de nous raconter 3 souvenirs. Et le troisième, il est aussi touchant que les deux autres, mais ça s'appelle Le souvenir dont je ne me souviens pas. Et voilà, c'est un souvenir, elle finit par ne jamais nous raconter ce qui s'est passé, mais elle nous raconte des événements qui à chaque fois font remonter ce souvenir dont elle se souvient très bien, mais dont elle dit qu'elle ne s'en souvient pas. Alors, elle écrit ceci, donc on n'est pas loin d'être à la fin du livre, qui est une petite plaquette. Hein. Ça doit être quoi ? Peut-être 2-3 heures d'écoute. Ce matin du 11 septembre 2001, j'ai bien compris que mon souvenir, celui dont je ne veux pas me souvenir, qui existe peut-être pas tout à fait, qui n'existe peut-être pas tout à fait, a failli s'installer pour de bon. Je le voyais camper dans ma mémoire pour le reste de mon existence, mais très vite le lendemain, j'ai réussi à l'oublier. Il s'en est fallu de peu. Le 30 janvier 2017, j'étais encore une fois, ce matin de juin 44, celui du 6. Ma mère et ses sœurs tombent de leur lit alors que les chars allemands font chavirer la terre en passant en trombe à travers Villers-Bocage, le village de Normandie dans lequel ma famille maternelle vit toujours. Ce matin-là, je suis saisie d'effroi même si je ne suis pas encore née. Il faut se dépêcher, courir pour ne pas périr sous les bombes des alliés. Il faut fuir comme des rats. Le 30 janvier 2017, oui, je me souviens du 6 juin 1944. Je vais pourtant venir au monde 17 ans plus tard. Mais les images sont très claires. Ma mère m'a beaucoup raconté ces heures de sa vie. Leur évocation a dévoré mes propres souvenirs. Je connais mieux 1944 que 1994, que j'ai pourtant vécu. Le 6 juin 1944, les Américains, les Anglais, les Canadiens, les Britanniques arrivent. Quel soulagement je connais. C'est enfin le débarquement. La guerre se terminera. C'est surtout l'exode de mes grands-parents, de ma mère, de ses sœurs, de ses amis, avec les soldats germaniques. Ils marchent ensemble, s'enfuient, côte à côte, alors que le ciel et ses obus tombent sur leurs têtes. Ce sont les nuits dans les tranchées, les têtes qui dépassent et qui seront décapitées, les membres épars sur les routes et les sirènes qui rugissent devant l'horreur. Ce sont aussi des cris étouffés. Il ne faut surtout pas se faire remarquer. Et si on a peur, il faut quand même continuer. Oui, de tout cela, je me souviens. Le 6 juin 1944 m'est revenu ce 30 janvier 2017 et j'ai cru que la Seconde Guerre mondiale était vivante en moi. Mais toute cette mémoire ravivée était là pour me permettre d'oublier le souvenir dont je ne me souviens pas et avec lequel je ne sais que faire si ce n'est passer mon temps à l'empêcher de vivre en moi. Alors oui, disons que le souvenir dont je ne me souviens pas et qui vient me tourmenter sans cesse, je vais en parler dans ce télescopage des temps qui est propre à ma vie. Il se passe un malheur et ce sont tous les malheurs, les miens et ceux des autres qui défilent. En moi s'engouffrent mille passés. Alors oui, disons que le souvenir dont je ne me souviens pas, je vais le raconter et l'éviter en évoquant cette soirée du 6 décembre 1989. Je sais que ce n'est pas tout à fait lui le souvenir dont je ne veux pas me souvenir, mais je me rappelle qu'à la fin de l'année 89, j'ai dû travailler plus que jamais pour oublier mon souvenir impossible, mon souvenir informe, parce qu'il me semblait être m'être apparu tout à coup dans son intégralité. Il a refait surface le 6 décembre 1989 et j'ai cru ne jamais pouvoir m'en débarrasser. Le 6 décembre 1989, je rentre à la maison, il est 18h30. Nous sommes le 6 décembre, mais nous sommes tous les jours de catastrophe. Sur le chemin qui me mène du cégep Saint-Laurent où je travaille à temps partiel jusqu'à mon appartement sur Côte-des-Neiges dont les fenêtres donnent sur le grand cimetière de la montagne, les sirènes croassent. Quelque chose a lieu, j'en suis sûr. Et on se souviendra de ce qui s'est passé évidemment le 6 décembre 1989 à Polytechnique. Et voilà donc cet extrait de « Ce qui restera » de Catherine Mavrikakis, un livre que je ne saurais que trop vous recommander, ainsi d'ailleurs que tous les livres de Madame Mavrikakis qui sont disponibles, et il y en a beaucoup, au SQLA. Bonjour Serge.
Bonjour Clotilde.
Serge, l'historien dont on aime, en tout cas l'homme dont on aime dire qu'il est un historien parce que vous aimez l'histoire.
Oui, oui.
Et qu'une fois encore, vous avez donc choisi un livre, un livre historique, mais histoire vraie. Là, nous ne sommes
absolument,
plus dans,
oui,
la,
oui,
dans
oui.
la fiction. Alors, je vous laisse le soin de nous le présenter, non sans vous dire, je l'avais évoqué dans mes rafales, vous savez, mais donc j'avais hâte qu'il y ait une personne qui l'ait lu et qui nous en parle un peu plus longuement,
bon,
ce sera chose faite.
Ça sera chose faite immédiatement. Ah, c'est un livre de Thierry Ardisson, qu'on connaît, ceux qui regardent TV5. Mm-hmm. Il fait beaucoup d'émissions historiques et très, très bien documenté. Alors, le titre, c'est « Les fantômes des Tuileries ». Chez Flammarion, c'est 220 pages. Mm-hmm. Ça se lit assez bien. Tout d'abord, le Palais des Tuileries. Ben, je vais vous montrer une photo du Palais des Tuileries.
Oui, qui est aujourd'hui disparu. Oui, mais il y a encore la petite coupole, non?
C'est disparu, oui.
C'est ça. Et
ce qui existe, c'est les pavillons de Marsan et de Flore, voilà, de chaque côté.
C'est ça, exactement.
L'incendie s'est arrêté là en 1871.
D'accord.
À la chute du Second Empire. La commune, à ce moment-là, avait brûlé le palais des Tuileries parce qu'il voulait vraiment détruire ce qui était rattaché aux différentes monarchies, tant les Bourbons, à partir de Louis XVI qu'à la Révolution. Louis XVI est obligé de demeurer là. Et tous les monarques français, après ça, ont demeuré là jusqu'à Napoléon III.
D'accord.
Et la République ne voulait... et même quand le palais des Tuileries, après l'incendie, on aurait pu apparemment restaurer le palais. Oui. Mais la République, en 1883, ne voulait pas ressusciter un souvenir de la monarchie. Oui. Alors, ils l'ont détruit carrément. Donc, aujourd'hui, c'est un espace libre.
Oui, oui, oui.
Donc, c'est ça. Le palais des Tuileries a été incendié par la Commune en 1871. Mais aujourd'hui, combien de gens savent qu'entre le pavillon de Marsan et le pavillon de Flore, s'élevait ce magnifique palais? Et dans ce palais qui n'existe plus, ce qui est intéressant, ce qui est la base du livre, c'est que tous les héritiers des maîtres des lieux à partir de Louis XVI n'ont jamais régné.
Hmm.
Une chose que je savais parce que j'avais lu sur ça, évidemment, mais ça m'a... J'ai dit, voyons, c'est vrai, c'est une drôle... Est-ce que c'est une drôle coïncidence?
Oui.
Ou est-ce que c'est un mauvais sort? On va en parler du mauvais sort. Donc, je fais une petite récapitulation. Le fils de Louis XVI, Louis XVII, de Louis XVI et de Marie-Antoinette, est mort. Il n'est pas né aux Tuileries, mais ses parents ont emménagé là en 1789, lorsque le peuple de Paris sont allés les chercher à Versailles. Mm-hmm. Et il est mort dans une prison à 10 ans. Là, c'est effrayant. Il a été abandonné, enfermé dans une cellule, parce que les révolutionnaires ne voulaient vraiment pas qu'il y ait de personnes qui survivent à la monarchie des Bourbons. Alors après, Louis XVII, c'était Napoléon, le premier empire.
Oui, oui.
Napoléon a eu un fils.
Oui.
Qui n'a jamais régné. L'Aiglon.
C'est vrai. Ben oui. Mais oui, l'Aiglon.
Ensuite,
qu'est-ce qu'il est devenu, lui, alors?
Il est mort à Vienne, très jeune, de tuberculose à 22 ans.
Ah oui? Oui, oui,
oui. Mm-hmm.
Bon.
Ensuite, vous avez la Restauration, Louis XVIII et Charles X. Louis XVIII n'a jamais eu d'enfant, mais son frère Charles X lui a succédé. Et lui avait un fils qui est mort assassiné, laissant un petit-fils. Et Charles X a été renversé en 1830. Et son petit-fils n'a jamais régné.
Qui est arrivé là-dedans, alors?
En 1830.
dans le décor.
Dans le décor, la monarchie de Juillet,
okay,
avec le roi Louis-Philippe, qui est devenu roi des Français et non roi de France. Pour le rendre plus acceptable à la population. Ah. Lui aussi avait un fils aîné qui est mort dans un accident. Et c'est son petit-fils qui devait lui succéder. Arrive la Révolution de 1848, son petit-fils part en exil, son petit-fils n'a jamais régné. Après Louis-Philippe, roi des Français, un peu de République et le Second Empire, Napoléon III. Napoléon III a un fils. Arrive la Révolution de 1870, qui le chasse du trône. Son enfant n'a jamais régné.
C'est fou.
Tous les héritiers à partir de Louis XVI n'ont jamais régné. D'où on parle d'une espèce de malheur sur les Tuileries.
Ah.
Et on passe, ce qui est le plus intéressant, ça, vous avez différents chapitres qui parlent de tous ces héritiers-là,
ouais.
Mais ce qui est le plus intéressant, c'est le premier chapitre du livre qui s'appelle « Le petit homme rouge ».
Okay.
Ici, je fais une petite aparté, petite. Vous avez en Autriche, ouais, le fantôme dit « La dame blanche des Habsbourg ». C'est une dame blanche qui serait apparue à différents souverains des Habsbourg pour leur annoncer qu'une catastrophe s'en venait. Elle serait apparue à Sissi avant d'être assassinée, l'impératrice Élisabeth d'Autriche, assassinée à Genève. Elle l'aurait vue quelques jours avant sa mort. Meyerling, on aurait vu la Dame Blanche rôder autour de Meyerling.
Ah oui?
Bon, il n'existe pas d'enregistrement vidéo de l'époque, évidemment, on ne sait pas.
On n'avait pas Facebook.
Non, c'est ça. Alors, il y a différents souverains Habsbourg comme ça, donc on parle dans les... Mais pour ce qui est des Tuileries, le fantôme rouge, c'est qu'on remonte à Catherine II. Catherine II. Catherine de Médicis, la femme d'Henri II.
Ouais.
Catherine de Médicis, c'est elle qui a fait bâtir les Tuileries. Et elle aurait fait assassiner un boucher, Jean l'Écorcheur, parce qu'il aurait été au courant que Catherine de Médicis aurait comploté pour assassiner Diane de Poitiers, la maîtresse de son mari. Elle ne l'a pas assassinée, mais il y avait des rumeurs. Donc, elle avait peur que ça se répande parmi la population. Donc, elle a fait assassiner le monsieur.
Mm-hmm.
Et on a eu de la misère à l'assassiner.
Ouais.
Il y a beaucoup de difficultés. Apparemment, son fantôme serait réapparu au bout d'une heure. on le réassassine encore, on replante un poignard, et là, il serait devenu le fantôme rouge des Tuileries.
Ah.
Et là, il serait apparu à différents moments, il serait apparu à Louis XVI, un peu avant son exécution. Il serait apparu également à Napoléon, à différents moments de la vie de Napoléon Bonaparte. Il serait apparu pour lui annoncer « Tu vas être empereur », ce qui est arrivé. Il est apparu à la veille de grandes, grandes batailles. Et à un moment donné, Napoléon, on a eu assis, il ne voulait plus l'écouter.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Une suite de malheurs, il a perdu son trône.
Ah.
Il est arrivé Waterloo, il est arrivé l'invasion d'Espagne.
Oh là là.
Parce qu'il n'aurait pas
la
écouté.
La Bérésina et tout le bazar.
Exactement, exactement.
Ah,
oui. Ensuite, à la monarchie, à la Restauration, ouais. Ben, le fils de Charles X, qui a été assassiné, aurait vu aussi le fantôme rouge des Tuileries, parce que tout ce monde-là a vécu aux Tuileries. Certains sont nés aux Tuileries, sauf Louis XVII, qui n'est pas né aux Tuileries, les autres sont nés aux Tuileries. Alors, c'est un peu compliqué hein, dans les
explications. Non, mais c'est pour ça que d'où
oui.
le titre, vraiment,
les fantômes des
à bon escient, c'est
oui,
ça,
c'est
les
ça.
Fantômes des Tuileries.
Alors, c'est ça. Donc, le petit-fils ouais. de Charles X est né aux Tuileries, il n'a jamais régné. Le petit-fils de Louis-Philippe, le fils de Louis-Philippe qui est mort dans un accident de voiture, ses chevaux se sont emballés et il est tombé sur la chaussée, il y a une fracture du crâne et il n'a pas, pas survécu à ça. Donc, c'est son fils à lui qui est devenu l'héritier. Et, mais ce fameux duc-là... qui a eu l'accident de voiture, aurait vu le fantôme rouge des Tuileries quelques jours avant sa mort.
Ah, donc on a notre fantôme blanc à nous qui est rouge.
Oui,
quoi.
Oui, oui, qui est un fantôme hein? rouge des Tuileries. Alors c'est ça, c'est le livre, et c'est pas, je voudrais, c'est pas un grand livre historique, là.
Non, non.
Mais c'est intéressant.
Oui, c'est sûr.
Quand on aime l'histoire, vous avez toutes les un peu résumé des vies de ces dauphins-là
ouais.
Qui n'ont jamais régné. Et mais c'est ça, le chapitre le plus important, moi, qui m'a vraiment fasciné, c'est au début.
C'est le premier, finalement.
Le chapitre rouge. Et le dernier chapitre s'appelle « La Dame Noire ».
Oui.
La Dame Noire, c'est que l'épouse de Napoléon III, l'impératrice Eugénie, oui. Napoléon III est mort peu après la guerre de 1812. Il est mort, il avait des calculs au rein.
Mm-hmm.
Elle avait si, pardon, on l'a opéré, puis il n'y en a pas... il n'a pas rescapé de ça. Et son fils, qui aurait dû être Napoléon... Napoléon IV, est mort en Afrique du Sud
oui.
en allant combattre les Zoulous pour les Anglais, parce qu'il ne pouvait pas s'engager dans l'armée française. Alors, il est allé combattre les Zoulous, puis il est mort, là, massacré par des Zoulous. Mais l'impératrice Eugénie a vécu très vieille, jusqu'à 93 ou 94 ans. Elle est morte en 1923. Et ce qui est le plus... au niveau historique, c'est qu'en 1870, la France, en se battant avec la Prusse, a perdu l'Alsace-Lorraine.
Ah,
ça a été la...
Déjà.
C'était, la...
c'était pas la première fois.
Non, mais c'était la honte.
Oui,
hein?
Ben oui.
Et les Français rêvaient, entre 1870 et 1974, la première guerre, de récupérer l'Alsace-Lorraine.
Ben oui.
Et l'impératrice Eugénie a vécu jusqu'en 1923 et elle a assisté au retour de l'Alsace-Lorraine à la France.
Ah!
Et elle disait, maintenant je peux mourir en paix.
Ah,
l'Alsace-Lorraine est revenue à la France.
Ouais. Merci beaucoup, Serge. Encore une fois, mais voyez-vous, je me doutais quand même qu'il y avait quelque chose de bien, bien intéressant dans ce bouquin-là, et vous me le confirmez. Les fantômes des Tuileries, par Thierry Ardisson, ARDISSON. Et c'était présenté pour nous par Serge Bradet. Merci, Serge.
Plaisir.
Et je retrouve aujourd'hui avec grand plaisir Faline Bobier de Caïba. Vous pouvez sortir si vous voulez, Serge Bé. Oui, vous savez, on est en famille ici. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Faline.
Bonjour, Clotilde. Ça va?
Oui, je vais très, très bien vous-même.
Oui, moi aussi, oui.
Alors, Faline de Caeb, j'aime bien vous avoir au bout du fil, une fois par mois à peu près, pour échanger avec vous, pour savoir un petit peu, pour en savoir plus sur les services que vous offrez, notamment, et puis peut-être sur quelques nouveautés. Mais aujourd'hui, je pense qu'on va plus s'intéresser aux services offerts par Caeb aux personnes non-voyantes.
C'est ça, je voulais parler peut-être de deux petites nouvelles sur le service et ensuite, si on a le temps, un peu, je ne sais pas comment dire en français, une rubrique qui se trouve sur notre site web, Choix des lecteurs.
D'accord, D'accord. Allez-y, je vous laisse aller. Pour l'instant, on ne s'occupe pas du temps.
OK, merci. Alors, d'abord, pour les petites nouvelles, à cause d'une entente entre la BNQ, c'est-à-dire Bibliothèque et Archives nationales du Québec, et le CAEB, il va être maintenant possible pour les francophones en dehors du Québec d'avoir accès à la collection de livres en braille en français de la BNQ, parce qu'au CAEB, nous avons une collection de livres en braille, mais uniquement en anglais. Mm-hmm. Donc, on est très contents maintenant que ça va être possible pour les personnes, pour les francophones qui sont inscrites au CAEB et qui habitent en dehors du Québec, par exemple au Nouveau-Brunswick, en Saskatchewan, par exemple, de télécharger des livres en braille électronique en français. Ces titres se trouveront dans notre catalogue. Oui. Donc, pour le moment, il s'agit d'une collection de plus de 3000 titres.
OK.
Pour adultes, pour jeunes et pour enfants. Donc, c'est une nouvelle qui nous rend très heureux.
Bien sûr. J'imagine que là-dedans, il y a des classiques, il y a des choses un peu plus nouvelles.
Un mélange de tout.
Bon, bon. Et ça va grossir aussi, peut-être, non?
Oui, c'est ça aussi, oui.
D'accord, parfait.
À cause de cette entente, on aura accès à tout ce qui est produit par la BAQ.
D'accord. Et là, on passe par CAEB pour avoir accès? D'accord.
Et pour les francophones en dehors du Québec, il faudrait passer par le CAEB pour avoir accès.
D'accord. À ces livres, je le rappelle, qui sont des livres en braille, mais en français.
En français,
c'est nouveau parce qu'avant, tous les livres en braille étaient en braille, mais en anglais. C'est bien ça.
Donc on est très heureux.
Ben oui,
Oui, parce qu'il y a quand même des francophones, évidemment, habitant en dehors du Québec, qui avant n'avaient pas accès.
Oui, puis vous savez qu'ici, à Canalem, on est très, très sensible à la communauté francophone de partout au Canada. J'anime même, d'ailleurs, moi, une émission qui se consacre à ce qui s'écrit c'est comme une revue de presse, si vous voulez, sur les francophones qui vivent partout au pays.
Oui, parce que moi, par exemple, je viens de la Saskatchewan, je suis originaire de la Saskatchewan, et il y a quand même, c'est une petite communauté, mais il y a quand même des francophones en Saskatchewan.
Bien sûr, oui. Et vous avez des journaux, d'ailleurs, écrits en français.
Oui, c'est ça.
Bon, alors, avez-vous une autre bonne nouvelle pour nous, émanant du CAEB?
Alors, c'est au niveau du service de magazine du CAEB. Maintenant, les clients qui sont inscrits pour le CAEB peuvent s'abonner au magazine Daisy du CAEB en version audio ou texte et recevoir les nouveaux numéros automatiquement sur leur appareil mobile ou s'ils ont un lecteur Daisy qui est connecté à Internet.
Okay.
Et le service, ça s'appelle téléchargement direct. Et la collection de magazines en ce moment, à l'heure actuelle, ça comprend plus ou moins 150 titres.
Oui.
Qui sont accessibles, et disponibles dès leur parution. Donc, quelques titres.
Wow.
Cuisine et vin de France, Paris Match, The Economist, Elle, 7 jours, Popular Science. C'est quelques-uns des magazines populaires qui sont disponibles. Mais quand même, on va continuer à offrir des magazines audio sur CD pour les personnes qui ne disposent pas d'un accès à Internet.
D'accord.
Et ces magazines sur CD sont envoyés tous les deux mois et au domicile de la personne et sans frais de poste.
Et là, vous nous parlez de magazines anglo et franco, je veux dire en langue anglaise et en langue française, c'est bien ça.
D'accord.
Et est-ce qu'ils peuvent s'abonner à tous les magazines ou ils peuvent
s'abonner? Oui, s'ils veulent, oui. Ou ils peuvent, parce que normalement, souvent les gens ne... les magazines sur CD, normalement, c'est des magazines qui sont, c'est-à-dire on retrouve 6 ou 7 magazines sur le même CD, mais pour les magazines qui sont livrés par le téléchargement direct, la personne peut choisir de s'inscrire ou s'abonner seulement à un magazine, donc c'est... Ou plus, ça dépend de la personne.
D'accord.
Il n'y a pas de limite.
Oh, fantastique. Alors là encore, on passe simplement par le site CAEB. Si on fait par Internet CAEB, on tombe sur vous directement?
Bibliocaeb.ca,
c'est ça. D'accord. Maintenant, il nous reste un petit... Oui? Pardon, allez-y.
On a le temps ou non, pas
vrai? Oui, on a un petit deux minutes pour parler. Okay. Oui, j'aimerais bien de la rubrique choix des lecteurs. Hein?
C'est ça. Donc, chaque mois, on essaie de mettre l'accent sur un titre dans notre collection qui est suggéré par un de nos lecteurs, lectrices, mm-hmm. ou quelqu'un qui est abonné. Alors, ce mois-ci, par exemple, il s'agit d'un livre suggéré par Marie-Josée Hardy, qui est narratrice bénévole dans les studios d'INCA à Montréal.
Oui.
Donc, elle a choisi un livre par Eduardo Galeano,
oui.
Le chasseur d'histoire. Donc, c'est ça qu'elle a écrit sur le livre. Elle dit « Eduardo Galeano dans Le chasseur d'histoire réécrit l'histoire, la grande comme la petite, telle que vécue par les Autochtones, les Indiens, les résistants, les insoumis, les rebelles, les femmes. » Donc, c'est ça qu'elle a écrit sur le livre.
Mm-hmm.
Et donc, c'est une façon pour nos abonnés de suggérer des titres qu'ils ont trouvés intéressants
Mais
aux,
oui.
aux autres abonnés.
Mais oui.
Donc, tout ce qu'il faut faire, si, par exemple, il y a des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient nous envoyer leur titre préféré, ils peuvent communiquer avec nous en envoyant un courriel à collection@commercialbibliocaeb.ca
mm-hmm.
pour nous faire connaître le titre du livre qu'ils aiment et nous en parler un petit peu comme dans un petit paragraphe.
Eh bien, regardez, c'est exactement ce que je fais moi toutes les semaines hein, avec des amis non-voyants qui nous partagent la lecture d'un de leurs livres, absolument.
Ouais.
Mais d'ailleurs, j'imagine que toutes les activités de Canal M et l'émission des livres plein les oreilles, ça doit être à l'honneur chez vous aussi dans la revue.
Ben, on devrait.
Ah, on devrait.
Non, on va le faire.
Alors, à partir de maintenant, ça va être ça. Alors.
C'est ça.
Non, c'est parce que je me dis.
On publie un bulletin électronique
oui.
À tous les mois.
Oui.
C'est intitulé Livres ouverts pour bibliothèque.
OK.
Et il y a aussi un bulletin pour les individus, pour les abonnés.
Bon.
Donc, bien sûr qu'on devrait se servir pour s'il y a des choses intéressantes.
Mais oui, vous savez, on travaille pour les mêmes personnes. Hein, alors,
je me dis que
l'émission des livres plein les oreilles, plus il y a de personnes non-voyantes ou avec des difficultés perceptuelles qui l'écoutent, et plus on va faire parler de nous. Et moi, vous savez qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Ça, c'est certain, mais on fait ça pour être entendu. Ça, c'est sûr aussi.
Oui,
Faline, oui?
Dans les prochains mois, oui.
Ah, ben, ce serait très gentil à vous. Je vous remercie beaucoup encore une fois pour votre participation. Je vous souhaite une belle fin de journée.
Et vous aussi, merci Claudine.
Mais je vous en prie, au revoir.
Au revoir.
Rapidement, je voudrais vous présenter ma prochaine invitée, celle de la semaine prochaine. Il s'agit de Michèle Ouimet, la nouvelle retraitée de la presse. Après 30 ans de bons et loyaux services et d'écriture et de reportages, notamment de grands reportages à l'étranger, elle nous arrive, cette jeune retraitée, avec un nouveau livre qui s'appelle « L'heure mauve ». On nous dit en quatrième de couverture « Pourquoi ne pas opter si on peut se les payer pour le confort et la facilité ?» Alors du coup, là, on parle d'une femme, une ancienne grand reporter à la retraite, tiens donc, qui emménage au Bel Âge, qui est une élégante résidence pour personnes âgées. Le problème, c'est qu'il y a des règles hein, dans une résidence et puis ben, il y a des gens qui les respectent et d'autres qui ne les respectent pas. Et puis, eh bien, il arrive qu'entre les habitués, entre les habitants de ces résidences-là, il arrive que ce soit la guerre et que ça se vive mal. Et comme elle dit, eh bien, cette ancienne grand reporter, la guerre, elle connaît ça. Alors, c'est à peu près le thème du livre L'heure mauve de Michèle Ouimet que je reçois la semaine prochaine. Alors, quelques livres pour peut-être vous mettre aussi entre les oreilles que je vous propose en rafale. Et tu trouveras le trésor qui dort en toi. C'est de Laurent Gounel. On parle d'une jeune femme Alice, jeune femme dynamique, audacieuse, qui retrouve un ami d'enfance qui est devenue prêtre de campagne. Elle, qui est athée et conseillère en communication, eh bien, elle va se mettre à l'aider à sa manière à elle pour que l'Église se remplisse un peu. Voilà le thème de « Et tu trouveras le trésor qui dort en toi » de Laurent Gounelle. J'ai aussi envie de vous parler de à peine un petit air de jazz de Gilles Archambault. Gilles Archambault qui serait peut-être un invité au mois de mai ou juin prochain. Ce sont 34 nouvelles brèves. Chacune raconte en quelques scènes, en un instant même parfois, l'histoire à la fois pathétique et douce amère d'un être à qui sa vie, ni l'héroïque ni médiocre, faite de ces choses toutes simples et fragiles que sont l'amour, le passage du temps, la joie et la souffrance, les rêves et les déceptions. On nous dit au sujet de ce livre que plus que jamais, Gilles Archambault est ici l'écrivain de l'intimité la plus poignante et la plus dépouillée, c'est-à-dire de cette inguérissable nostalgie et de cet émerveillement auquel nul n'échappe dès qu'il se tourne vers soi-même et prête l'oreille. À peine un petit air de jazz de Gilles Archambault. Voilà mes amis, c'est là-dessus que se referme l'émission des livres pleins les oreilles. Je remercie tous ceux qui y ont participé, Gérard Saint-Denis, Catherine Mavrikakis, Serge Bradet et Faline Beaubier de CAEB. C'est Clotilde Sey qui remercie Monsieur Bolduc, Maurice Bolduc en régie aujourd'hui, qui vous remercie vous d'être présent. Bonne lecture, bonne semaine, à la semaine prochaine.